Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans cette émission 10h30, 12h30, Parlons Vrai chez Bourdin. Je suis heureux de vous recevoir et d'ailleurs, je salue celles et ceux qui me disent tous les jours qu'ils nous rejoignent sur Sud Radio. J'en croise tous les jours dans la rue et je salue notamment tous les chauffeurs de taxi qui me disent « on va vous écouter 99.9 en région parisienne pour écouter Sud Radio ». Donc n'hésitez pas. Vous savez, notre objectif c'est de ne pas s'ennuyer quand on écoute la radio. Au diable les commentaires. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Ce qui m'intéresse, ce sont les analyses. Et ce qui m'intéresse, ce sont vos témoignages. Vous appelez le 0-826-300-300. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube. Et vous êtes déjà près de 700 000 à nous suivre. Et sur Facebook, en live tous les jours à 10h30. Donc, n'hésitez pas, venez participer, venez écouter. Le programme est extrêmement riche ce matin. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Nice hier, 16h30, un refus d'obtempérer qui a eu lieu hier après-midi sur l'avenue Henri Matisse à Nice. Le conducteur a été tué par un policier, le passager a été interpellé et placé en garde à vue. Aucun refus d'obtempérer ne mérite la mort. C'est ce que tweet le député LFI Antoine Léaumont. Qu'en pensez-vous? Nous allons appeler dans quelques minutes Anthony Boré, qui est premier adjoint au maire de Nice. Vous réagissez, vous témoignez. La formation des policiers, c'est l'un des sujets que nous aborderons ce matin. Tout à l'heure, entre 11h et midi, nous ferons de la politique. Pourquoi la politique? Parce que moi j'aime la politique, parce que vous aimez la politique et parce que nous avons décidé de consacrer tous nos jeudis à la politique. Donc nous regarderons l'actualité. Conseil de la refondation qui vient d'être lancé par Emmanuel Macron. Situation sociale et énergétique, sécurité, Ukraine. Rejet des médias aussi. Ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que vous rejetez les médias? Nous aurons trois invités pour débattre. Robert Ménard, qui est maire de Béziers, président de la communauté d'agglomération bitéroise. Aurélien Taché, qui est député Europe Écologie Les Verts, NUP du Val d'Oise. Et puis Carl Olive, député La République En Marche des Yvelines. Ils seront là tous les trois en studio pour débattre avec vous également, car vous pourrez les interpeller. C'est pas compliqué. 0826 300 300. Et puis, entre midi et midi et demi, nous serons un peu plus légers, quoique, un peu plus légers, pas forcément, puisque nous parlerons de cette initiative prise par un sénateur socialiste qui veut créer, après ce qui s'est passé autour des déclarations de Christophe Galtier, les déclarations autour des déplacements du Paris Saint-Germain. C'est un sénateur socialiste qui voudrait déposer une proposition de loi PSG, ce qu'il appelle une proposition de loi PSG. Nous verrons cela, nous en parlerons tout à l'heure. Vous êtes avec nous. Tiens, je voulais vous donner cette information que j'ai lue ce matin, qui va nous faire réfléchir et qui peut aussi nourrir nos débats. Les panneaux solaires photovoltaïques ont fourni cet été, écoutez bien ces chiffres, ont fourni cet été 12% de son électricité à l'Union européenne. 12% de l'électricité européenne cet été sont venus des panneaux solaires photovoltaïques. 9% en 2021, ce qui a permis 12% d'économiser 29 milliards d'euros d'achat de gaz en Europe grâce aux panneaux solaires photovoltaïques. Les Pays-Bas, 23% de l'électricité fournie aux Pays-Bas cet été l'ont été par des panneaux solaires. En Allemagne, 19%. En Espagne, 17%. Et la France, me dites-vous, nous sommes à la traîne, nous sommes en retard. 7,7% de la production électrique venue du solaire seulement. Voilà, je voulais vous donner ce chiffre qui mérite réflexion. Nous reviendrons évidemment sur le sujet si vous le souhaitez. Vous intervenez, vous êtes prioritaire, 0826 300 300. Bien, nous allons commencer avec ce qui s'est passé à Nice. Un refus d'obtempérer a eu lieu hier après-midi. Le conducteur du véhicule, il était 16h30, peu avant 16h30. Le conducteur du véhicule, un homme, est mort, tué par un tir de policier. L'homme, le conducteur, roulait sans permis. Écoutez bien, roulait sans permis, à bord d'une voiture signalée volée. Le véhicule a fait des zigzags, extrêmement dangereux pour les automobilistes sur la voie rapide. Un équipage de police de la BRB, la Brigade de Sécurité Routière, s'est alors mis à sa poursuite. Deux fonctionnaires ont suivi un véhicule qui prenait des risques sur la voie rapide à la sortie Nice-Ouest. Ce véhicule s'est engagé dans l'avenue Henri Matisse, a fait un demi-tour devant le véhicule de police et a percuté le véhicule, apparemment à deux occasions. Nous allons appeler dans quelques instants Anthony Boré, qui est premier adjoint au maire de Nice. Mais tout de suite, ça vous fait réagir. Romain est à Paris. Bonjour Romain.
Bonjour Jean-Jacques.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien du GIGN, Romain. Oui. Vous dites les policiers ne sont pas formés à ces situations. Le refus d'obtempérer. Je voudrais préciser, Romain, et c'est très intéressant, le policier qui a tiré est un policier contractuel. Je dis bien contractuel. Formation d'un policier contractuel, 3 mois. Lui a-t-on parlé du refus d'obtempérer? L'a-t-on formé sur le refus d'obtempérer? Romain.
Alors, pour ce qui est du refus d'obtempérer, etc., qu'il soit contractuel ou qu'il soit validé, je veux dire, ça c'est pas un problème.
Ça ne change rien.
Ça ne change rien. En revanche, il faut bien être conscient que la quantité d'informations qu'on doit lui délivrer pendant ces 3 mois sont énormes et qu'il n'a pas le temps d'intégrer, surtout, on va parler d'actes réflexes.
Oui.
On va parler d'actes réflexes. La formation de base, elle est trop juste. Les créneaux d'entraînement, ils sont trop justes. Le nombre de cartouches annuelles qui sont accordées, que ça soit à un contractuel ou à une personne d'active, sont beaucoup trop justes. Tout ça, ça pose un problème.
Bien sûr. Problème de formation. On y revient, Romain.
Alors, il y a un problème de formation, bien évidemment, mais il y a aussi un problème, pour moi, de justice. Il y a un problème de justice dans le sens où il existe un cadre législatif qui n'est plus appliqué en fait depuis de nombreuses années, où en fait on a inculqué à tous les personnels qui passent par les écoles, que ce soit en police ou en gendarmerie, le fait de ne pas tirer. Vous entendez bien ce que je dis, de ne pas tirer, sauf vraiment si on vous roule dessus. Je suis désolé, il y a un moment, si vous êtes sous l'auto, vous pouvez plus faire.
C'est certain.
Parce que tous les agents de la force publique, qui, rappelons-le, vous avez d'ailleurs eu Maître Thibault de Montbrial il n'y a pas longtemps et qui en a fait mention, tous les agents de la force publique sont les seuls autorisés par la loi, par l'État, à avoir l'usage de la force légitime. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de bavure.
Je vais l'utiliser. Là, une enquête IGPN est ouverte. Mais
sûr,
c'est logique, hein, c'est normal. Alors, quand un député LFI, Antoine Léaumont en l'occurrence, dit « aucun refus d'obtempérer ne mérite la mort », vous répondez quoi ?
Alors, à ce cher monsieur, j'ai envie de lui répondre. Le jeune homme à Rennes, début juin, de 19 ans, qui était piéton et qui est mort percuté par un rodéo.
Oui.
Il dit quoi, cette personne ?
Oui.
Il dit quoi, cette personne ? Il y a un moment, si vous voulez, c'est ce qui est assez agaçant, c'est que, comme je vous disais, on est allé sur une idéologie, en fait.
Où l'on accuse systématiquement la police, hein, Romain ?
C'est pas ce qu'on... Les médias jouent énormément là-dessus, hein, mais on accuse beaucoup la police, mais... On sait très bien le rappeler pour d'autres affaires. Il y a la présomption d'innocence auquel tout le monde a droit. Là, il y a des vidéos qui tournent, etc. Ça sera utile dans le cadre de l'enquête et dans la décision du juge. Mais cependant, effectivement, il faut bien mettre le ratio. Chacun sa responsabilité, je veux dire. Donc, il faut bien mettre en corrélation le ratio avec la formation et puis le pouvoir entre guillemets de vie ou de mort qu'on vous accorde avec une toute petite formation. Si vous, Monsieur Bourdin, vous faites 2 semaines d'école de journalisme et qu'on vous balance comme ça à la tête des médias et qu'on vous dit allez-y, donnez la vérité aux gens, je ne suis pas persuadé que vous allez donner la bonne parole.
Oui, vous avez raison. Je voudrais juste une petite remarque à ce propos, Romain. Je ne suis pas là pour donner la bonne parole. Mon job, c'est de rapporter des faits, c'est d'ouvrir les débats, les discussions, offrir une analyse, c'est très important. Écouter les acteurs, les uns et les autres, c'est ce qui compte. Après, le commentaire m'intéresse peu. Vous le savez, c'est ma conception des choses. Mais Romain, vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons appeler quelqu'un qui suit l'affaire de près, Anthony Boré, qui est le premier adjoint au maire de Nice. Anthony Boré, bonjour.
Bonjour.
Les faits se sont déroulés vers 16h30, hier. Cet homme qui conduisait cette voiture volée, hein,
Anthony oui, Boré, je vous le
voiture
confirme,
volée,
oui.
était suivi par la police.
Oui.
Ce véhicule, conduit donc par cet homme qui a été tué, s'est engagé dans l'avenue Henri Matisse, a fait demi-tour devant le véhicule de police et a percuté le véhicule de police. Apparemment, à deux occasions, vous confirmez ?
À deux reprises, je vous le confirme.
Comment ça s'est passé ? Quels sont les faits qui se sont déroulés ensuite ?
Écoutez, ensuite et avant, parce que oui. Ce qui est important de comprendre aussi, et les images de vidéoprotection de la ville le démontrent et ont été mises à la disposition des enquêteurs, c'est de comprendre que cet individu, qui visiblement était sans permis également dans ce véhicule volé, avec un passager, mettait en danger un certain nombre d'automobilistes sur une voie à grande circulation à Nice qui s'appelle la voie rapide, qu'à la sortie de la voie rapide, il y a effectivement ce refus d'obtempérer, qui a cette vive allure dans une voie à 16h30 où il y a des riverains, des piétons, des enfants, fait demi-tour et percute effectivement à deux reprises ce véhicule. Face à face, c'est un choc qui a eu lieu face à face. Il appartiendra aux enquêteurs de dire dans quelles conditions le policier qui conduisait ce véhicule a tiré en sortant. Je vois d'ailleurs un certain nombre d'images sur les réseaux sociaux et j'appelle à la plus grande prudence parce que les enquêtes ne se font pas sur Snapchat, sur Twitter ou sur Facebook.
Ça me fait plaisir d'entendre ça, vraiment, vraiment. Je vous le dis, Anthony Boré, parce que bien, c'est facile hein, de tronquer des images, c'est facile de ne diffuser qu'une partie des images et d'accuser immédiatement.
Absolument, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur du véhicule. Peut-être que ce policier s'est senti agressé, je crois qu'il s'est senti agressé d'ailleurs, je sais par ses collègues qu'il est évidemment très choqué, au-delà d'une blessure à l'épaule, qui est importante. Donc voilà, moi ce qui me paraît vraiment important de dire dans ce contexte, où nous sommes confrontés à un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, hier à Nice nous en avons eu 3, 2 à l'égard de la police municipale, dont un qui a un scooter qui a été retrouvé grâce aux caméras de vidéo de protection plusieurs mètres plus loin. Celui-là se termine dramatiquement et c'est toujours triste d'avoir à déplorer la mort d'un individu. Mais enfin, une société dans laquelle on ne défend pas l'uniforme, dans laquelle on ne défend pas les policiers, c'est une société qui se meurt et qui confine à l'anarchie.
Bien, Anthony Boré, je vous garde évidemment avec nous, si vous pouvez, 2 minutes de pub, parce qu'il faut que je la passe absolument, ensuite vous pourrez terminer, et je donnerai la parole à Jean-Pierre, qui était commissaire de police, et qui va nous faire part de son expérience et de ses remarques. À tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Anthony Boré, qui est premier adjoint au maire de Nice, est toujours avec nous. Anthony Boré, que vouliez-vous ajouter ? Anthony Boré ?
Je souhaitais ajouter qu'un pays dans lequel, encore une fois, on ne fait pas confiance aux forces de l'ordre, à ceux qui portent un uniforme, c'est un pays qui très vite peut tomber dans l'anarchie, parce que ce sont ceux qui nous défendent au quotidien. Et voilà, face à tous ceux qui sont confrontés à ces refus d'obtempérer, toutes les 20 minutes, moi, j'appelle à une présomption de légitime défense pour les refus d'obtempérer pour les policiers et les gendarmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il y a un permis de tuer pour les policiers, parce que les policiers ne tuent pas de gaieté de cœur. Ils tuent quand ils se sentent menacés. Et je crois que c'est ce qui s'est produit hier à Nice.
Bien, merci beaucoup. Anthony merci Bourret, présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Là, c'est un sujet de débat, évidemment, qui vous partage, hein, parce que vous n'êtes pas tous d'accord. Tony, Jean-Pierre sont donc avec nous. Tony est grutier à Bordeaux. Bonjour Tony.
Bonjour Jean-Jacques.
Que vouliez-vous dire, mon cher Tony ?
Non, ben écoutez, moi, le premier, celui, le monsieur du GIGN a à peu près répondu à tout ce que je voulais savoir. Oui. C'est-à-dire que bon, ben apparemment, ça pourrait être un problème de formation parce que non seulement le gardien de la paix, on peut être sûr qu'il voulait pas le tuer. Il avait, pour moi, il avait pas d'autre choix. Et je pense que peut-être qu'il y aurait eu moyen de faire autrement, mais ça, s'il a pas été formé pour, on peut pas le blâmer. Voyez,
c'est une vraie question, la formation des policiers, oui. évidemment.
Mais le premier fautif, ça pour le dire Jean-Jacques, le premier fautif, c'est celui qui est décédé malheureusement.
Ben, voilà. Le premier fautif, c'est celui qui refuse d'obtempérer. Hein.
Et on est d'accord. Voilà. Il n'est pas mort pour un refus d'obtempérer, il est surtout mort parce qu'il était en train de mettre en danger la vie du policier.
Oui. Bien,
donc,
ben merci.
Donc on n'en a pas pour un refus d'obtempérer.
Voilà. Eh ben merci beaucoup Tony, merci d'être avec nous hein, sur Sud Radio. Ça fait longtemps que vous écoutez Sud Radio, Tony.
Alors monsieur, je ne vais pas faire de la pub pour une autre radio, mais vous écoutez avant.
Oui, sur RMC, on peut le dire. Hein. Moi vous savez, je cache rien. Hein.
D'accord, oui. Donc, et on a fait une petite pause, hein, je vous ai attendu, et puis je reviens.
Bah, merci voilà. Tony, ça me fait plaisir.
Ouais, vous en prie,
un Bordelais avec nous, Jean-Pierre, qui lui est dans les Landes, pas très loin. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour, merci d'être avec vous. Avec vous et avec nous, oui. Sur Sud Radio, oui, Jean-Pierre. Vous étiez commissaire de police, vous êtes à la retraite, hein, c'est cela ?
Oui, tout à fait.
Bon, que vouliez-vous dire, vous qui êtes un expert, hein, et encore une fois, si je donne la parole aux auditeurs, c'est avant tout parce qu'ils savent ce que nous ne savons pas. Nous, les journalistes, nous ne savons pas tout. Vous, auditeurs, vous avez pratiqué ce métier. Moi, je n'ai jamais été policier. Donc, comment voulez-vous que je donne mon avis sur la question ? Vous avez été policier, vous avez été commissaire de police. Vous savez ce qu'est un refus d'obtempérer, vous savez quelle est la formation donnée aux policiers, et vous savez que dans ces contrôles où tout se passe vite, il y a un moment, où il faut prendre des décisions.
Oui, mais oui, tout à fait. Mais bon, ce que je peux dire, d'abord, un type d'expert peut faire le mot de sachant qu'expert. Quoi, hein.
Oui, sachant, vous avez raison, vous avez raison.
Sachant. Sachant ce que je sais, c'est que l'intervention de police, déjà, c'est pas la police qui est à l'origine de l'incident quand même. La police, elle adopte en fait une riposte. C'est sa façon de se défendre, c'est la riposte, c'est tout. Hein.
Oui.
Moi, ce que je distingue dans ce problème de refus d'obtempérer, je distingue cette affaire de Nice, par exemple, de l'affaire de Rennes, où j'ai eu quelquefois des amalgames.
Oui.
Alors pourquoi je le distingue ? Parce que l'affaire de Rennes est une affaire judiciaire.
Oui.
Fait par des interpellations
trafic de drogue,
de services spécialisés. Les services spécialisés connaissent la nature de l'individu qui vont interpeller et ils peuvent, je dirais, anticiper sur ses réactions et de même de calculer d'ailleurs le moment et les conditions de l'intervention pour qu'elle soit le plus propice à éviter les bavures, ce qu'on appelait il y a une vingtaine d'années, quoi. Aujourd'hui, on ne parle plus de bavures, mais en fait, c'était quand même ça. Alors que là, dans le problème qui préoccupe Nice, c'est un problème de sécurité au quotidien, de prévention. Et il est difficile pour l'agent, moi j'entends formation, non. Ils sont formés, les agents. Mais
attention, c'est un policier contractuel. Hein. Donc,
oui, le même contractuel. Je dirais même contractuel, il aurait été formé à ce qu'il faut pour se défendre. Là où on ne peut pas être formé, c'est justement cet instinct.
Oui.
Et on ignore totalement la réaction qu'on peut avoir face à l'attaque dont on fait l'objet.
Vous-même, dans votre métier, vous-même, Jean-Pierre, vous avez été confronté à ces moments où vous vous êtes dit « je tire pas ».
Eh bien, moi, je vais vous dire, j'étais donc commissaire de police financière, hein, pour rien vous calmer, en judiciaire. Hein.
Oui.
Mais il est arrivé qu'il fallait quelquefois faire procéder à l'interpellation de gens dont on savait qu'ils appartenaient au grand banditisme.
Oui.
Nous, je suis désolé, moi, j'ai toujours connu mes limites dans l'intervention, et j'ai fait appel, je faisais appel à la brigade criminelle ou au service spécialisé de la DIPN pour pouvoir intervenir en renfort, je dirais, avec
des
gens qui ont la compétence pour le faire.
Bien
donc,
sûr.
Cette histoire de formation, je dirais, même si l'agent est formé, il n'est pas formé, je dirais, à une réaction par rapport à quelque chose qu'il ne peut pas prévoir. Et on ne peut pas considérer qu'un policier tue par plaisir. Le policier, il tue par défense. Il ne tue pas par plaisir. Et c'est justement le cas de la poursuite, c'est très bien, qui est une poursuite judiciaire ouverte contre également le policier. Et cette instruction va avoir pour but de déterminer si cette intention coupable existait ou pas. Moi, je pense que non. Les conditions que je viens d'entendre dans lesquelles ce gars, finalement, s'est retourné contre lui-même les forces d'intervention, c'est lui qui est à l'origine quand même de l'incident. Ouais. Je souhaite quand même que ces policiers... Pour moi, je ne vois pas, de bavure, et je ne vois pas trop de défauts par rapport à la formation. Et je n'incriminerai pas ce contractuel, parce que je vous dis encore, même les gens qui interviennent, on peut... en une semaine, former des policiers à la conduite, à se comporter, à réagir. Il y a une chose où on ne peut pas nous former, ni vous ni moi d'ailleurs,
Sauf,
malheureusement, je dirais l'âge. L'âge nous fait avoir du recul, l'âge nous fait avoir de la distance, l'âge nous fait avoir, mais dans tout métier d'ailleurs, dans tout métier. Et là, il est très difficile à un policier de savoir comment il va se comporter face à un incident. Moi, je jette la pierre à personne. C'est très, très, très difficile.
Bien.
Et je le redis encore, dans toute infraction, il y a cet élément intentionnel. Et
bien.
Moi, je n'ai jamais taxé la police et le policier de vouloir volontairement
tuer
une personne. C'est pas son truc. Le mec, il est traumatisé, quoi, le mec.
Ouais.
Moi, je connais des gens qui ont flingué accidentellement parce que c'était leur moyen de se défendre. Et ils considèrent toujours que c'est un accident.
Mmh.
Ils considèrent même pas que ça fait partie de leur métier, quoi.
Mmh.
Ils sont chagrinés de l'avoir fait, quoi. Ils en parlent 20 ans après, quoi.
Merci Jean-Pierre. Merci.
Voilà ce que je peux dire, mon
merci
cher
pour vous. Merci pour ce que vous savez, Jean-Pierre. Et merci
allez
de nous le faire partager. Parce que ce que nous allons faire tout au long de cette année, entre 10h30 et midi et demi, c'est vous écouter votre expérience. Encore une fois, à travers l'actualité, nous allons traiter l'actualité. Hein. J'y tiens, traiter l'actualité, mais nous intéresser d'abord aux faits, je le répète. Hein. Au fait, à l'analyse, et nous verrons le commentaire ensuite. Il est 10h55. Tiens, nous allons parler politique. Tous les jeudis, je vous offrirai une heure de politique entre 11h et midi. Pourquoi ? Parce que je crois à la politique, je sais que vous aimez la politique. Et ce matin, pour regarder l'actualité politique au sens large, on va parler du Conseil de la Refondation lancé par le président de la République il y a un instant. On va parler de la situation sociale et énergétique, on va parler de l'Ukraine. On va parler aussi du rejet des médias. Ça m'intéresse beaucoup, le rejet des médias. Nous aurons trois invités qui vont débattre avec vous. Et vous pouvez intervenir, 0826-300-300, Robert Ménard, maire de Béziers, président de la communauté d'agglomération bitéroise, Aurélien Taché, qui est député Europe Écologie Les Verts, NUP, du Val d'Oise, et Carl Olive, qui est député La République En Marche des Yvelines. Ils seront là tous les trois en studio pour débattre, ça va être passionnant. Vous êtes sur Sud Radio, merci, 10h56.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nous sommes jeudi, 11h02, c'est l'heure de la politique. Jeudi politique sur Sud Radio. Pour intervenir, ce n'est pas compliqué. Vous savez que vous êtes prioritaire ici. J'attends vos témoignages, votre expérience. 0826-300-300, 0826-300-300. Nous avons trois invités politiques ce matin, parce que j'aime la politique. Je crois que vous aimez la politique. Chacun a le droit et le devoir de défendre ses convictions. Robert Ménard, maire de Béziers, président de la communauté d'agglomération bitéroise. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Robert Ménard.
Bonjour.
Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts, NUP du Val d'Oise.
Oui, bonjour.
Aurélien Taché, bonjour. Et Carl Olive, député La République En Marche des Yvelines. Bonjour.
Bonjour Jean-Yves Bourdin.
Merci d'être avec nous. Nous allons évidemment développer les sujets d'actualité. Ce n'est pas compliqué. Conseil de la Refondation, nous allons écouter Emmanuel Macron. Situation sociale et énergétique, l'Ukraine. Et le rejet des médias. Parce qu'il y a une enquête passée sous silence qui nous dit que 63% des Français n'ont plus envie d'être informés. 63% des Français n'ont plus envie d'être informés. Une fatigue médiatique. Oui, disons les choses. Mais tout de suite, nous allons commencer sur un sujet léger. J'ai envie, pour sourire un petit peu au départ. C'est une interdiction qui a surpris les élèves du collège Elsa Triolet à Saint-Denis. Ils n'ont plus le droit de venir en claquettes chaussettes. Félix Mathieu, d'où vient cette mode ?
Eh bien, des basketteurs américains et des sportifs de haut niveau en général. À force de les voir sortir d'entraînement en chaussettes sous des claquettes, c'est devenu un phénomène consacré par ce clip en 2017. claquettes chaussettes d'Alrima, 22 millions de vues sur YouTube, une pratique désormais interdite par le règlement de ce collège Elsa Triolet du côté de Saint-Denis. Alors au-delà des préoccupations esthétiques, cette tenue, eh bien, elle ne protégeait pas assez les pieds des élèves par des produits manipulés en cours de physique-chimie, selon l'établissement.
Bien, est-ce que le collège a le droit de formuler une telle interdiction dans son règlement intérieur ? Bruno Bobkiewicz est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, est-ce que vous avez le droit de formuler une telle interdiction ?
Oui, on a souvent la formulation « tenue correcte exigée » qui apparaît dans les règlements intérieurs.
Oui.
Si un établissement sent le besoin d'aller plus loin,
oui,
et de faire quelques précisions de cette nature, c'est qu'il a senti qu'il y avait une problématique particulière. C'est donc validé par son conseil d'administration, avec les représentants des élèves, des parents, des enseignants, qui ont dû valider cette disposition particulière.
Je rappelle que vous êtes membre du syndicat des personnels de direction. Vous êtes vous-même principal de collège, c'est cela ?
Principal de collège et proviseur de lycée, oui.
Voilà, principal de collège. Donc vous dites oui, on a le droit de formuler une telle interdiction dans notre règlement intérieur. Un mot, c'est un sujet léger, mais pas si léger que ça.
C'est pas si léger que ça, parce que ça renvoie à un truc tout simple, c'est que quand t'allais à l'école, enfin moi je suis vieux, mais quand j'allais à l'école, tu t'habillais pas n'importe comment. Je veux dire, tu respectais tes enseignants et tu respectais le lieu. Et donc il y a des tenues, oui, qui sont pas, me semble-t-il, à l'image de ce que devrait être l'école. Moi je suis maire, j'arrive, alors ça change un peu, j'ai tellement gueulé là-dessus que ça a commencé par changer, j'arrivais dans les classes, t'avais l'instit qui se levait pas et les enfants qui se levaient pas. Pardon, j'ai 70 ans, je suis le maire, je peux être leur grand-père, tu te lèves à l'école. Et si on veut, on peut pas se plaindre d'un laisser-aller ailleurs, on peut pas se plaindre d'un certain nombre de dérives, si on commence pas dans les lieux essentiels par se mettre des interdits. La ville, la vie, devenir un homme,
c'est
accepter un certain nombre d'interdits. Voilà,
Aurélien Taché ?
Oui, je suis pas un partisan de l'uniforme à l'école et de ce genre de choses. Mais là, quand même, j'admets qu'il y a des limites à tout. Je suis content d'avoir appris d'où ça venait, parce que je trouvais ça sur le plan esthétique très douteux, mais il y a quand même une explication un peu rationnelle. Donc,
des basketteurs.
Bon, ça me rassure, parce que je me disais, bon, les jeunes quand même, là, je comprends vraiment plus rien à la mode des jeunes. Donc oui, il faut pas aller en claquettes chaussettes à l'école. Non, c'est pas possible.
Bah heureusement que la mode à l'époque des basketteurs de NBA, c'était les claquettes chaussettes, parce que si ça avait été les Bob Marcel, on aurait quelques difficultés aujourd'hui à voir ses élèves entrer dans la classe. En plus, c'est pas bon pour la santé. Donc, non, jusqu'où peut-on ne pas aller, quoi.
Oui.
Voilà, à un moment donné, on ne demande pas un peu de laxisme dans nos structures, hein, un peu de discipline, de rigueur. Et moi aussi, je suis un tout petit peu plus jeune que M. Ménard, mais quand j'avais quelqu'un qui se présentait en classe, on se levait.
Bien. Conseil national de la refondation. Le président de la République a ouvert le Conseil national de la refondation. Eh bien, on va l'écouter. Quel est l'objectif de ce conseil ?
Et l'objectif pour moi de ce Conseil national de la refondation, c'est d'abord, au fond, de bâtir du consensus sur la situation de la France et son avenir. Nous sommes dans une situation qui est historique, une guerre en Europe, des difficultés énergétiques, une inflation qui remonte, des défis immenses comme celui de la transition climatique, des engagements qui ont été pris à la présidentielle, et on le voit dans le débat public, on a parfois du mal à se mettre d'accord sur les faits. Donc pour moi, le premier objectif, ça va être celui-ci. C'est aussi pour ça que nous avons convié 3 experts, c'est rebâtir du consensus sur là où va le pays.
Rebâtir du consensus. Objectif, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, il est capable, le président de la République, son gouvernement, est-ce que la majorité est capable de rebâtir du consensus ? Qui veut commencer ? Tiens, Carl Olive, cet objectif. Et d'ailleurs, il dit, le président de la République ajoute, les propositions issues du CNR peuvent déboucher sur des référendums.
Moi, je vais remettre ma casquette de maire que j'avais encore il y a quelques semaines, Jean-Jacques Bourdin, j'étais maire de 2014 à 2022
à Poissy.
On a multiplié ce qu'on appelle des outils de démocratie de proximité. Je pense à, par exemple, au CODES, le Conseil de développement économique social local, qui était consultatif, sans élus, que des citoyens, et ça apportait des choses concrètes. On disait que le grand débat national n'aboutirait sur rien. À l'arrivée, ça avait fait 1 500 000 contributions. La TH, taxe d'habitation, a été supprimée. Ça vient du grand débat national. Je pourrais vous citer d'autres exemples comme la déconcentration des services publics comme la création des maisons France Service. Convention citoyenne, on aurait pu aller plus loin, mais ça a été exactement la même chose. Moi, je suis quand même très étonné de savoir qu'on demande moins de verticalité, et ça a été le cas fut un temps au premier quinquennat, rappelons-le. Le président décidait, les citoyens exécutaient. C'est fini, ça. On demande plus de transversalité, Et quand on a de la transversalité, on ouvre la porte aux uns et aux autres. Parfois, il y en a qui jouent la politique de la chaise vide. C'est dommage, parce que les mêmes qui jouent la politique de la chaise vide vont être les premiers à commenter
ce qui se passe. Même Édouard Philippe.
Ben, c'est, voilà, chacun est dans sa responsabilité.
Même Édouard Philippe, ce qui est dommage, non ?
Chacun est dans sa responsabilité. Moi, je suis heureux de voir que nous avons une... C'est un outil. C'est un outil, Jean-Jacques Bourdin. Oui. C'est pour moi un outil de démocratie de proximité. On n'aura que de bonnes surprises, on ne peut pas en avoir de mauvaises, parce que déjà, on a annoncé l'arrivée du tiercé après la course.
Tout le monde n'y est pas. Vous le regrettez, vous le déplorez, vous n'y êtes pas.
Non, bien sûr que non. Mais non, mais bon, alors, d'abord, je suis content parce que visiblement, Emmanuel Macron va se mettre à l'écologie. Il recycle. Il recycle les instances, il recycle la Convention pour le climat, il recycle le grand débat national. Il nous a fait le coup, il nous a fait le coup plusieurs fois, mais Carlo, vous aimez le foot. Il y a des joueurs, parfois, c'est la saison de trop. Là, c'est l'instance de trop. Franchement, plus personne n'y croit. À chaque fois qu'il a créé quelque chose, il n'en est absolument rien ressorti. Non, les gens de la Convention citoyenne pour le climat vous le disent. Moi, je suis député écologiste. C'est 3 sur 20, la note. Ils ont mis sur finalement la reprise des propositions sans filtre. Alors maintenant, ils s'engagent plus à reprendre sans filtre le président de la République parce qu'il voit bien que de toute façon, à la fin, il fait que comme il veut. Donc on peut y aller, on peut discuter, on peut dire ce qu'on veut. Il fait comme il veut. Et puis surtout, il y a quelque chose de plus grave dans ce qu'il a dit là, dans sa déclaration. Créer du consensus. Mais Jean-Jacques Bourdin, la démocratie, c'est le contraire. C'est organiser le dissensus. C'est organiser le désaccord. C'est faire en sorte qu'on puisse débattre quand on vient de positions politiques différentes. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Assemblée nationale et que ce soit tranché par des votes.
Oui, Aurélie Attaché, organiser le désaccord, c'est antidémocratique, à condition de savoir s'écouter. Et à condition de savoir dialoguer.
Honnêtement.
Le dialogue, c'est pas un dialogue de sourds. C'est un dialogue constructif. Non.
D'accord, mais sauf que le dialogue constructif, ça ne peut pas forcément être de tomber sur les positions du président de la République, si vous voulez. Et c'est ça qui le dérange. Il est toujours d'accord pour débattre tant qu'on est d'accord avec lui. Mais après, sinon, ça s'arrête.
Honnêtement, moi, je suis dubitatif parce qu'on nous a tellement fait de promesses et on est tellement les spécialistes mondiaux ici des trucs bidules, machin, dont on se demande à quoi ça sert. Le conseil, honnêtement, on peut parler franchement, le conseil économique, social et environnemental, personne ne sait à quoi ça sert. Longtemps, on y recasait ses copains qui étaient battus aux élections. Hein, je te mets là et tout. Ça sert à rien. Enfin, à part de se tenir une langue de bois, mais on peut essayer de ne pas le faire. Mais en même temps, le seul argument qu'il a, Emmanuel Macron, dans cette histoire, c'est moi, l'Assemblée, je suis content qu'elle soit un peu plus à l'image que les précédentes de l'été. Mais en même temps, je crois qu'on est tous contents, c'est mieux. Mais honnêtement, je vous le dis sans polémique, mais l'image que vous donnez des débats, c'est pitoyable. Attendez, moi, je peux ne pas être d'accord avec vous. Je veux dire, les noms d'oiseaux, comme ça se passe et tout, vous pouvez pas savoir. Mais je parle pas du fond de ce que vous dites. On n'est pas en accord, mais c'est autre chose, ça. L'image épouvantable que ça donne auprès des Français. Je veux dire, déjà, on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis un ancien journaliste et un politique. Tu cumules tous les inconvénients. Les mecs, ils te croient plus. Je suis pas d'accord avec vous. On n'a pas besoin. Moi, la démocratie participative.
Est-ce qu'on a besoin d'un conseil national de refondation ?
On n'a pas besoin de ça. Le discrédit, et si les gens vont pas voter, c'est que nous, voilà, on est 3 hommes politiques ici. Les gens, ils nous croient plus, ils nous font plus confiance. Ils ont toujours l'impression qu'on leur raconte des trucs au moment de faire campagne et puis qu'on le fera pas, qu'on l'oublie pendant 5 ans.
Mais vous croyez qu'en s'assiant sur le résultat des élections législatives, ça va aller mieux ?
Non, mais attendez.
On peut discuter de la force.
D'abord, il s'est pas assis, pardon.
Bah, si, vous voyez bien que l'Assemblée ne lui convient pas, donc il essaie d'en créer une autre.
Attendez, mais essayez. Moi, je suis d'accord avec un certain nombre de choses. Je suis d'accord. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, que ça ne sert à rien, même si je trouve que le choix de Bayrou est le moins mauvais qu'il aurait pu faire. Parce que, non, moi, j'ai de l'estime pour l'homme.
Comme Edouard Philippe ne viendra pas, ce ne sera pas un congrès de renaissance. Du coup,
non, mais attendez. Attendez, essayons de ne pas faire de la polémique pour faire de la polémique. Ouais, je veux dire, vous pouvez critiquer,
je ne suis pas naïf.
Bon. Je dis juste, essayons de ne pas être une caricature. Moi, j'écoute un certain nombre de choses, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses. Quand c'est une bonne idée de Macron, c'est une bonne idée. Là, ça, je pense que ça ne servira à rien parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là.
C'est une mauvaise idée.
Voilà, c'est tout.
Si
c'était un truc, on était dans un truc, une espèce de climat à peu près tranquille, ce serait une bonne idée. Aujourd'hui, les Français, ils attendent. Attendez, pas ça, quoi.
Le problème de fond, pour réfléchir au problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, les politiques courent après l'actualité. Et courent. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à prévoir. Regardez ce qui se passe avec la vitesse aujourd'hui des événements, ce qui se passe en Ukraine, la crise énergétique. Qui, il y a 5 ans, pouvait penser à une crise énergétique ? Qui, il y a 5 ans, pouvait penser à une guerre
en Ukraine ? Mais Jean-Jacques Bourdin, qui, il y a 2 ans, aurait pu penser au Covid ?
Mais bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont un peu des artifices, peut-être, pour essayer de montrer après qu'on arrive à gouverner.
Eh bien, pardon, moi, je pense qu'on ne peut pas encore une fois se plaindre qu'il n'y a jamais de concertation transversale. Et ne confondons pas ce qui n'est pas à comparer. Je suis au Parlement, je suis heureux de faire partie du Parlement. Je trouve dommage, et je rejoins M. Ménard, et je pense qu'on partage ça avec M. Taché, que c'est devenu un peu Interville, sans les vachettes, à un moment donné. Et ça, c'est insupportable. Vous parliez d'un ton léger au début de cette émission sur on gossait sur les claquettes chaussettes. C'est pas si léger que ça. Parce que l'image que nous renvoyons, cette caisse de résonance de l'Assemblée nationale, il faut pas rêver. Pourquoi derrière, on a des insultes, on a des mauvais comportements dans les classes. Ça vient jusque-là. On est une caisse de résonance.
Vous devez être exemplaire.
Donc on doit donner
vous devez être exemplaire.
Et c'est pas simplement être en smoking, etc. Mais il y a deux poids, deux mesures. Je reviens sur ce qu'on disait.
Oui.
Dans nos collectivités, parce qu'il faut qu'on reparle du terrain.
Mais même la cravate, moi, je pense, c'est pas ridicule à l'Assemblée, sans déconner, tu vois. Pourquoi t'arriverais débraillé à l'Assemblée? Qu'est-ce que c'est, cette idée?
Oui, pardon. Juste pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, on doit changer le logiciel. Le logiciel, c'est terminé d'être systématiquement du sommet pour arriver au terrain. On doit partir du terrain. Et quand on part du terrain, allons voir les élus. Les maires vont avoir un rôle prépondérant,
Jean-Jacques Bourdin, pendant d'accord. le prochain quinquennat. Je suis d'accord défends le rôle des maires ici.
Mais monsieur le député,
Robert Ménard.
Moi, vous êtes crédible, sauf quand moi j'applaudis tout ce que vous dites. Mais en même temps, quand j'entends un certain nombre de ministres dire, quand une idée, en gros, il y a une espèce d'arc républicain, quand une idée ou une proposition viendrait de la France insoumise ou du Rassemblement national, c'est hors la démocratie, hors la République, c'est insupportable.
Alors, je suis d'accord
avec
vous.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous,
non,
avec la France insoumise.
Sûr,
mais honnêtement, on ne se connaît pas. Enfin, moi, je sais qui vous êtes et tout. Mais je ne crois pas que je sois moins républicain que vous. Non, je vous le dis, parce que quand j'entends la première...
Je partage...
Mais alors, dites-le à votre première ministre.
Dites-le
à votre première ministre. Elle dit le contraire. Elle ne veut pas discuter avec des gens qui sont... Moi, je ne suis ni Rassemblement national, si tout le monde le sait, la France est soumise. Mais alors, honnêtement, je la respecte, qu'on me respecte. Alors, au fond, les gens qui vous renvoient aujourd'hui en disant « je ne veux pas les discuter », on a tort de ne pas les discuter dans ce truc, même si ce n'est pas utile, si ça peut servir à quelque chose. Honnêtement, je pense que ça pourrait essayer. Mais attendez, vous serez crédible quand vous arrêterez de dire « on discute quand il y a des gens raisonnables ».
Il y a une promesse faite, et puis on va changer de sujet après la pub, il y a une promesse faite par le président de la République, les propositions issues du CNR, ce Conseil national de la refondation, peuvent déboucher sur des référendums. On verra bien. Il est prêt à organiser des référendums.
Vous voyez bien ce que je vous disais. C'est juste contourner l'Assemblée nationale. On essaye de trouver une instance où les gens qui sont dedans sont à peu près d'accord avec vous. On donne un vernis de légitimité parce qu'effectivement, à juste titre, les maires sont encore ceux qui, politiquement, sont les plus proches des citoyens. Donc on dit, vous voyez, il y a les maires. Les maires, c'est moins embêtant que les députés. Les députés, ça râle, c'est pas d'accord,
ça
vote pas.
C'est pour ça qu'il faut faire
une... C'est
ironique. Vous avez compris.
C'est
ironique. Mais c'est comme effectivement...
Et à la fin, c'est des référendums.
Donc voilà, on ne veut plus l'Assemblée nationale dans ce pays. C'est dommage parce que c'est intéressant ce que vous avez dit, Jean-Jacques Bourdin, à un moment.
Mais
ça aurait pu être autre chose.
Vous défendez le référendum en permanence. Et là, vous dites.
Moi, je défends la démocratie parlementaire.
Vous défendez le référendum quand il vient de chez vous, mais si c'est le pouvoir qui organise des référendums, ça vous va pas.
Mais écoutez,
on peut avoir certains
sujets où le président de la République va sur des référendums, la Constitution, des choses importantes, etc. Nous, on défend le référendum d'initiative populaire. C'est pas tout à fait la même chose.
Non,
c'est quand les citoyens veulent se saisir d'un sujet.
Mais c'est
le monarque présidentiel, il a suffisamment de pouvoir. Donc il peut aussi un petit peu écouter les corps intermédiaires et les instances. Et c'est dommage qu'effectivement, nous, écologistes, on a toujours défendu, par exemple, une chambre du temps long au Parlement. Par rapport à ce que vous disiez, ça, c'est intéressant. Il y a urgence, effectivement, en permanence, et sur des grands sujets, la politique énergétique, un certain nombre de choses, il faut du temps, et on aurait pu imaginer quelque chose comme ça. Mais là, on ne va pas du tout là-dessus. On va sur comment Emmanuel Macron va trouver un outil de plus pour que son quinquennat soit à peu près vivable.
Robert, pardon, je vous coupe. 18, un peu de pub. Mais non, vous allez parler. Ne vous inquiétez pas tout de suite.
Je ne m'inquiète pas.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
11h22, vous êtes sur Sud Radio, c'est passionnant, 0826 300 300. Tiens, Julien, nous allons prendre Julien, mais Robert Ménard, je vous ai coupé la parole, donc vous l'avez la parole.
Non,
Robert, je voulais faire une proposition.
Ouais, je voulais rebondir. Il y a une différence essentielle entre le maire et les autres élus. C'est que le maire, il se coltine tous les jours. Vous l'avez été,
mais vous pourriez l'être.
Tu te coltines tous les jours les problèmes de tous les gens. Et le débat idéologique, les fausses querelles, les principes soi-disant, et tout ça, tu sais bien que c'est des conneries. Tu sais bien qu'il faut faire attention attention aux gens et tout. Moi, je pense, honnêtement, je vais vous dire, ça va vous faire bondir parce que vous êtes tous les deux dans les partis. Moi, je pense que le principal problème, c'est les partis. Les logiques de partis, les intérêts boutiquiers.
Des partis politiques, il faut supprimer les partis politiques.
Je ne suis pas, pas pour Robert. Je pense que le renouveau de la politique pour trouver une réponse, ce sera en dehors des partis politiques et en s'appuyant sur les maires. C'est les maires qui sont la voix de la raison. Et les gens, ils ont juste. Ils ont plus envie de grands débats idéologiques. Ils ont juste envie que tu leur règles les problèmes. Et honnêtement, les problèmes au jour
le jour. Problème de la vie politique en France, pas que les partis, mais les
la
partis.
Logique partisane, c'est
la logique partisane
qui tue la démocratie.
Personnellement, je suis assez d'accord. Mais alors, Carloli, vous avez une autre proposition. Vous allez déposer une proposition de loi.
Proposition de loi sur le retour du cumul député-maire, en tout cas avoir deux exécutifs possibles. Oui. Aujourd'hui, pardon de le dire, mais pourquoi on a parlé à un moment donné de déconnexion de l'Assemblée par rapport au terrain? C'est bien parce qu'il y avait trop de verticalité et qu'on ne s'appuyait pas sur les fantassins de la République. Les maires, quelqu'un qui a été maire, qui devient député... ça peut faire école, on peut aller chercher des choses dans la loi. On l'a fait à Poissy, un petit exemple, sur des cautions de mariage, sur les incivilités. Un vrai bordel partout, on n'est pas un microclimat, à l'extérieur avec les rodéos et à l'intérieur où des gens montaient sur les chaises, etc. On a mis une caution de 1000 euros. À 99,9%, les futurs mariés récupèrent leur caution. Elle est entrée dans la loi. Et pourquoi ? Parce que ça vient du terrain. Je rejoins ce que dit M. Ménard. Élu au premier tour. Votre serviteur, pareil. Pourquoi ? On ne fait pas de politique de gauche ou de droite. On fait une politique qui est en adéquation avec les administrés.
Vous allez déposer votre proposition de loi. Est-ce que la majorité vous suit ? Vous êtes dans la majorité.
Ah bah, mon petit doigt me dit que le président de la République va me suivre. Mon petit doigt me dit qu'une partie de la majorité présidentielle va suivre. Mon petit doigt me dit que des partis d'opposition vont me suivre.
Est-ce que
Non, pas sur le non-cumul. Nous, on restera
en partie. Mais non, parce une partie d'amis socialistes vont suivre également.
Mais pourquoi vous êtes contre?
Je suis d'accord avec le fait que c'est important d'être ancré dans son territoire pour être un bon élu, y compris pour un parlementaire. Mais moi, je suis pour qu'on renforce encore les prérogatives du Parlement. Et je pense que pour faire son travail sérieusement, surtout dans un Parlement qui deviendrait vraiment un endroit où on fait la loi, ça peut peut-être commencer un tout petit peu sous ce quinquennat, vu qu'il y a du pluralisme et autres. Mais moi, je suis pour que, voilà, on ait le temps de faire son travail
pas
de parlementaire correctement.
Qui va nous le permettre,
il y a d'autres, c'est un peu facile ça, il y a d'autres manières de connaître son territoire, d'être ancré que d'être maire. Enfin, quand même, il y a des gens qui peuvent connaître le terrain sans forcément être maire. Et par rapport à ce que vous disiez juste avant, moi j'ai pas de problème avec effectivement qu'au niveau local ce soit moins clivant, moins idéologique, qu'on travaille tous ensemble, c'est très bien, c'est ce qui se passe. La plupart des maires font ça et vous avez bien raison. En revanche, moi je ne crois pas que les partis politiques soient le problème. Je pense que le problème c'est que les partis politiques sont coupés du peuple, sont coupés des classes populaires. Mais moi je suis pour, vous avez connu ça, Robert Ménard, sûrement vous aussi, Carl-Olive, une époque où finalement, le peuple, il pouvait aussi se former politiquement, s'éclairer en tant que citoyen avec cette belle aventure que peut être la formation militante. Malheureusement, les partis ne sont plus ça aujourd'hui, il faut les réinventer. Mais moi, je pense que c'est utile pour structurer le débat national.
Bon, Robert Ménard, juste très vite, puis on va passer à autre chose.
Regardez, moi, je vais vous dire, mon pragmatisme, c'est quoi ? C'est, je suis d'accord avec vous, monsieur, en disant, moi, je ne crois pas qu'on puisse être maire, je ne pourrais pas être maire de ma ville et député. Il y a un des deux que je ne ferai pas. Bien. Aussi simple. En même temps, je suis d'accord avec vous pour dire que l'absence d'ancrage local est un problème. Moi, je pense que j'affinerai une proposition. Je pense que c'est un vrai débat. Il ne faut pas dire pour ou contre. Moi, je pense qu'on ne devrait pas pouvoir être élu député sans avoir avant exercé un mandat local. Avoir exercé un mandat local. Ce qui permettrait de...
Obligation d'exercer un mandat local avant...
Pas forcément
avant
maire, ça peut être dans un département. Mais un mandat local où tu es confronté au...
Mais même conseil municipal, bien sûr.
Voilà.
Mais
même et je me dis que voilà... On, voilà, regarde.
Je vois la logique.
Mais ça devrait être vrai pour être ministre ou même président de la République. Non,
mais on, il pourrait...
non, enfin, je dis ça comme ça.
Oui,
regardez, regardez ce qui m'exaspère. Tous les trois, on est là, on vote différemment tous les trois. Mais je pense que si on s'y mettait un peu sérieusement, on pourrait trouver une solution.
Mais oui.
Putain.
Peut-être
comme,
dans le CNR.
Oui, mais
comme
vous êtes, quand vous êtes dans un parti politique.
Mais dites pas ça, arrêtez de généraliser. Non, on a le droit d'être pragmatique, Robert Ménard.
La logique des partis. C'est opposer les gens. C'est systématiquement ça. Et la France insoumise.
Pas partout.
Non, mais pas partout.
Il y a des exemples de démocratie européenne où c'est pas comme ça. Non,
en,
et au Parlement, les gens arrivent à travailler
ensemble. Et même en Italie, ils arrivent à travailler ensemble comme nous, on y arrive.
Il y a des coalitions qu'on est incapable de mettre en place en France.
C'est dommage.
Le consensus et les coalitions, c'est deux mots en France qui n'existent pas. Tu vois. Il faut se foutre sur la gueule parce que chacun est dans un parti.
Merci à tous les trois. Il est déjà 27. On va refaire un peu de pub. J'ai promis, je vais reprendre Julien. Ensuite, nous allons parler évidemment de la crise énergétique au sens large. Nous avons englobé l'Ukraine en même temps, parce que là il y a un vrai débat sur pourquoi cette crise énergétique. Est-ce que ça vient exclusivement de la guerre en Ukraine? J'y crois pas une seconde, mais c'est le climat n'est pas l'insurrection, disent les députés et sénateurs de la majorité. Qu'en pensez-vous? Allez, à tout de suite, 11h28.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nous commençons avec Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Jacques.
Julien, vous êtes commercial, vous êtes à Créteil dans le Val-de-Marne. Allez-y. Exactement. Que vouliez-vous dire, mon cher Julien?
Écoutez, je reviens sur ce dont vous parliez. Je vais faire le lien avec ça, sur les refondations. Excusez-moi, mais très franchement, ça fait quand même un peu enfumage. J'ai repris les déclarations de M. Macron depuis 2016. Il nous a quand même promis la refondation nucléaire, la refondation de nos relations avec la Russie, la refondation de l'Europe, la refondation de l'action de l'administration pour la mettre au service des entreprises, la refondation de la fiscalité sur le capital pour favoriser l'investissement, la refondation des directives européennes des travailleurs détachés, la refondation de la politique de l'immigration, la refondation démocratique de l'Europe, etc., etc., la refondation de Schengen. Et enfin, il a terminé, je passe parce qu'il y en a encore des dizaines, de la justice pénale, de la PAC. Il nous a promis la refondation de l'ordre mondial. Rien que ça, dites-moi, écoutez, avec ça, si les Français n'ont pas compris qu'ils ont Superman à la tête de l'État, écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais là, franchement, ça fait quand même un peu...
Julien est un auditeur suit la politique avec attention.
Je connais pas Julien, mais je trouve que vous avez de l'humour et vous mettez le doigt où ça fait mal quand même, évidemment.
Le problème, M. Bourdin, très rapidement, c'est que je pense que les Français ne doivent plus être dupes, il faut avoir de la mémoire. Et quand vous reprenez les discours de M. Macron depuis 2016, excusez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à du bullshit, à du yaka faucon, mais derrière, il n'y a pas grand-chose.
Bien, merci Julien. Carl Olive,
je me demande pourquoi il a été réélu, le président, pour la première fois de la Ve République. Je me demande pourquoi encore aujourd'hui, sur les sondages, le couple président...
Il est à 40%, ministre, là, j'ai vu.
Est plutôt satisfaisant. J'entends en partie ce que dit Julien. Après, tout ce qui est excessif est insignifiant. On ne peut pas comme ça jeter... l'anathème sur tout ce qui se passe. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à reconstruire, il y a moins, encore une fois, on en revient tout à l'heure. Il y a de la transversalité à trouver.
S'il a été réélu, c'est qu'il avait aussi Marine Le Pen en face d'elle, et Marine Le Pen, elle continue à faire peur à tout un tas de gens.
Mais moi,
j'ai voté pour Marine Le Pen. Tu votes pour les gens que tu es aveugle sur les gens. Honnêtement, à part d'être complètement abruti, dans la vie, tu es un peu plus nuancé que ça. Un type, il peut dire un truc bien sur un moment et puis dire une connerie le lendemain. Moi, Marine Le Pen, il a dû se dire, une fois qu'il est face à Marine Le Pen, pour Mélenchon, c'était le même tonneau. Il est aussi caricatural sur un certain nombre de positions. Mais au deuxième tour, je suppose que vous auriez
voté. Au deuxième tour, vous avez voté pour qui au deuxième tour?
Au deuxième tour, c'était Macron-Le Pen. Donc,
et vous avez voté pour qui?
Pour Emmanuel Macron, quand même. Je peux pas.
Vous l'avez admiré un temps.
Il faut rien dire pendant 5 ans.
Surtout qu'en plus, vous l'avez admiré un temps, Emmanuel Macron.
Je suis plus opposé au camp nationaliste. J'allais pas voter Marine Le Pen, Robert Ménard.
Et pourquoi pas?
Je respecte vos idées, votre engagement, il n'y a pas de problème.
Attendez, ça tombe bien, moi j'ai jamais été au Rassemblement National. Je pèse le pour et le contre et je me dis à un moment donné le pour et le contre.
Aurélien Taché répond. Louis Boyard, on lui pose la question et les filles, il ne répond pas du tout, lui.
Vous avez compris, je vous reproche pas d'avoir voté ça.
Mais c'est un faux choix, effectivement, ce deuxième tour pour beaucoup de gens.
Je dis juste, tant que vous aurez des discours aussi simplistes que celui, de M. Mélenchon d'un côté et celui de Marine Le Pen, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Alors, justement, Robert Ménard, est-ce que le climat est à l'insurrection? Je vous dis ça parce que...
climat.
Mais c'est ce que je veux. Il y a une petite musique, mais ça, c'est chaque année la même chose à la rentrée. La rentrée, sociale va être terrible.
C'est les fantasmes.
Tout le monde sera dans la rue.
Chaque année. Qu'est-ce que c'est la convergence des luttes. Non, mais sans rigoler, tu pouffes de rire 5 minutes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes.
Oui.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vraies raisons.
Vous sentez qu'il y a une colère qui ferait les citoyens descendraient dans la rue.
Non, il y a une vraie colère. Il y a surtout une angoisse des gens qui se traduit par une colère de certains. De là, descendre dans la rue, mais c'est un monde.
Je
veux bien prendre le point, comme on dit, sur la rentrée sociale qui revient chaque année, effectivement, à gauche. C'est normal, d'ailleurs, parce que c'est dans les gènes et les origines de pensée de la gauche, de penser qu'il faut des mouvements sociaux pour que la société bouge, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on n'est pas cette année un petit peu quand même dans un contexte particulier? Enfin, on a eu certes beaucoup de grosses crises ces dernières années, mais cette inflation qui arrive très fort, cette gestion de la crise énergétique cet hiver, bon, personne ne sait trop bien comment on va la gérer. Personne n'a compris réellement, le gouvernement non plus, comment effectivement on allait pouvoir faire face à ces pénuries. On voit bien que dans beaucoup de communes, vous êtes maires tous les deux, on en a parlé au début du... Il y a beaucoup d'équipements qui ferment là comme ça parce qu'on ne peut même plus approvisionner en énergie un certain nombre de piscines, d'équipements et autres qu'on pense que l'hiver
ça ferme chez vous.
Va être très difficile.
Moi je suis inquiet. L'inflation, les coupures et le reste peut mettre le peuple français très en colère.
J'ai trois piscines que je ne ferme pas. Moi, je ne les ferme pas, mais attendez. Je ne veux pas dire une bêtise. J'attends de voir dans 3 mois où on en est, si on ne sera pas... Non, mais attendez, si on ne sera pas obligé de fermer un jour dans la semaine et tout. Je ne vais pas dire des conneries, je ne vais pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de tenir.
Bien sûr, rien tâche est terminé.
Donc, moi, je pense que cette année, avec effectivement le contexte social très difficile, et on ne va pas revenir sur les débats qu'on a eus déjà cet été à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas eu ce que, finalement, nous semblait indispensable, l'augmentation des salaires, une vraie mesure pour le pouvoir d'achat. On ne sera pas d'accord avec Carl-Olive, il va me dire qu'il y en a eu. Moi, je considère qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'attendaient les gens, et on a une inflation qui continue. Et maintenant, on a la crise énergétique. Et vous avez un président de la République qui vous explique, mais si vous baissez le chauffage à 19, ou si vous faites ceci, vous faites cela. Bon, alors quand ils pourront plus, quand l'inflation sera trop forte, ce sera quoi? Faudra sauter un repas par jour, c'est quoi? Non, la politique, elle n'est pas là pour ça. La politique, elle est là pour amener des vraies réponses.
Carl-Olive, Carl-Olive.
Et donc,
je
fais juste un petit constat.
Oui.
On n'a jamais eu l'occasion de discuter comme ça avec Aurélien Taché. C'est formidable. Merci, Radio. Merci Jean-Jacques Bourdin, parce que on se connaissait pas avec Monsieur Bénard. Voilà, on a travaillé ensemble à iTélé il y a quelques années, mais au moins ça le mérite et on peut discuter tranquillement sans qu'on ait des numéros de claquettes, pardon de le dire, sur LFI. Vous parliez du climat à l'instant de la rentrée.
Oui.
Ben, c'est normal. Je veux dire, Monsieur Mélenchon, il faudra qu'il soit souffleur, mais pas au théâtre, mais au barbecue. Pour laisser les braises bien allumées, il n'y a que ça qui existe.
Avec les barbecues. Avec Europe Écologie Les Verts, les barbecues. C'est dangereux. Il faut qu'à un moment donné,
M. Mélenchon et son orchestre comprennent que 3 élections présidentielles capoutent, qu'il n'est pas Premier ministre, qu'il ne fait pas partie du Parlement, et qu'à un moment donné, chacun doit aussi montrer l'exemple. Sauf si les partis sont plus importants que le pays. Donc, évidemment que c'est compliqué. Après, il y a un proverbe qui dit « Les Français se plaignent toujours la bouche pleine ou le chameau ne voit pas sa bosse ». Je regardais hier un tweet de votre consoeur anglaise qui disait que les Français ne se rendent pas compte sur le prix moyen de l'électricité en Europe. Le prix moyen de l'électricité en Europe. La France est fait partie des premiers de la classe. Pourquoi ? Parce que il y a eu une anticipation, tout ne provient pas de là, mais il y a eu une anticipation, et pardon de le dire, on ne va quand même pas se le reprocher.
Le nucléaire ?
Bah, on ne va quand même pas se le reprocher. Donc c'est bien aussi à un moment donné de voir la réalité des faits.
Deux choses. D'abord, sur le nucléaire, M. Macron, il porte une responsabilité sur la situation. Qui c'est qui ferme effectivement Fessenheim ? C'est lui, même si c'est décidé avant pour votre copain.
J'y suis favorable.
C'est la vérité.
Le problème, c'est qu'il manque d'énergie renouvelable dans ce pays.
La pression des écologistes a fait faire des conneries aux uns et aux autres.
Le Pen n'a pas été très à droite non plus sur le sujet.
Est-ce que je défends Mme Le Pen ? Non mais attends, est-ce que je défends Mme Le Pen ? Non. Moi, ce que je dis par rapport à la crise, c'est que tout le monde ment.
Il faut le dire.
Tout le monde. Mais vous me laissez finir. Comme je dis, tout le monde ment. Aujourd'hui, il y a la guerre en Europe. Moi, j'étais en Ukraine dimanche encore de nouveau. Il y a la guerre en Europe. Expliquer et comme le fait Mme Le Pen, comme ça, ou comme le fait la France insoumise, qu'on peut au fond, parce que c'est ça qu'ils disent, qu'on pourrait au fond faire comme s'il n'y avait pas de conséquences pour les uns et les autres de cette guerre, c'est mentir aux Français. Ce sera plus dur pour tout le monde. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas avoir à la bouche, sans arrêt, on défend les droits de l'homme, la liberté, patati patata. Et aujourd'hui, se dire, ça veut dire défendre l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine, ça veut dire que ça nous coûtera des choses. Ça nous coûte, ça a des répercussions sur l'inflation.
Robert Ménard soulève un point qui est très important, c'est-à-dire qu'on est très heureux de défendre l'Ukraine, mais on n'accepterait pas les conséquences, alors, conséquences de cette guerre. Il faudrait quand même être honnête.
Alors Jean-Jacques, je finis là-dessus. Alors, on arrête de dire qu'il n'y en aura pas. La seule chose qu'on peut faire, et c'est le rôle des politiques, c'est dire on va essayer que pour les plus humbles...
Ah, ben voilà.
Les plus... Oui, mais pas pour tout le monde. On ne fait pas pour tout le monde.
Vous savez, c'est ce que je suis d'accord là-dessus avec vous, moi. C'est pas ce qui se passe.
Sur le salaire minimum, mais c'est vous donner une image déplorable. Quand tu es dans l'opposition... J'ai l'impression d'être dans mon conseil municipal, tu sais, les mecs, ils veulent tout l'investissement et tout ça.
Mais c'est bien.
Non, mais ça veut dire que quand tu es dans l'opposition, tu peux dire n'importe quoi. Moi, je le reproche à mes amis politiques de dire n'importe quoi.
Augmenter le salaire minimum, c'est pas n'importe quoi.
Ce qui est n'importe quoi, c'est dire pourquoi pas. J'ai vu des gens qui disent 2000 euros, pourquoi pas semaine de 3 jours. On peut dire n'importe quoi. Moi, je n'en peux plus de ça. C'est ce qui nous donne aucune crédibilité. Les gens, ils sont pas assez cons. Les gens, nos concitoyens, ils sont pas assez abrutis, imbéciles, pour croire que demain, on va avoir la guerre. Et se battre avec eux. Donner plus au SMIC, payer moins cher l'essence, personne ne le croit ça. Et la classe politique, mes amis les premiers, veulent faire croire que non, peut faire des miracles.
Carl
on
ne
fait
Olive pas de miracles. Et la pub, Carl Olive.
Juste, monsieur Ménard a été le patron de Reporters sans frontières, il connaît l'humanisme au cœur des organisations. Oui. Je dis juste quelque chose, je suis quand même très étonné que sur plateau après plateau, je ne sais pas si c'est le cas ici, monsieur Bourdin, on oublie juste un truc, 5000 morts civiles dans le pays, 6500 blessés, 380 enfants décédés. Je ne dis pas ça pour madame
Royale. En Ukraine.
En Ukraine. À un moment donné, pourquoi il y a aussi ces décisions? C'est que il y a des choses qui se passent sur le champ de guerre. Oui. Et donc les décisions qui sont prises, c'est aussi lié par rapport à un fait qu'on a des dizaines de milliers de morts et qu'on a l'impression que finalement on est indifférent et qu'il aurait fallu réagir autrement s'il y avait eu zéro.
Sur l'Ukraine, on va, si vous voulez, ouvrir le débat, mais il est 11h43, nous y reviendrons un autre jour. Ce serait très intéressant,
Jean-Jacques, j'ai passé ma vie comme patron de Reporters sans frontières dans les guerres du monde entier. Ce dimanche, j'étais à Tcharkiv, la ville jumelle. On s'est jumelé avec une ville. Et à un moment donné, avec Béziers, c'était bouleversant. Ils ont appelé pour leur remettre des décorations et des aides toutes les familles qui avaient perdu un enfant. Un homme, parce que c'était qui? C'était ou des femmes, ou des jeunes femmes, des mamans, ou des jeunes femmes en noir avec des enfants. Vous savez ce qu'ils m'ont dit quand j'ai discuté avec eux? J'avais les larmes aux yeux, comme vous l'auriez eu exactement de la même façon que moi. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, n'oubliez pas, ne vous lassez pas. N'imaginez pas que le prix du pétrole qui va augmenter, vous nous abandonniez pour autant.
Ça veut dire qu'on leur doit ça.
Je suis parfaitement d'accord avec ça.
On se lasse. On se lasse aussi, pardon. Parce que on n'ose pas regarder les choses en face, peut-être Robert Ménard, c'est qu'aujourd'hui, on est pris au cœur d'une tourmente de guerre. Deux pays sont en guerre, il faut accepter malheureusement les horreurs de la guerre. Et puis on est aussi au cœur d'une tourmente de communication entre la communication russe et la communication ukrainienne. Et que nous perdons la lucidité, nous perdons... Mais si, Robert Ménard.
Mais oui. Mais à un moment donné, la propagande de guerre, elle a toujours existé. Oui, vous connaissez-vous mieux que nous ce sujet-là? Pour tout un tas de raisons, vous les connaissez parfaitement. Moi, la propagande, on la connaît. Reste, Jean-Jacques, qu'entre les Russes, russe qui rentre en Ukraine et les Ukrainiens, mon cœur, il balance. Il n'hésite pas une seconde et choix-là...
Mais personne ne doit remettre en cause l'agression russe, évidemment.
Mais pour éviter toute propagande, c'est bien...
Vous rigolez? Le tropisme pro-russe de mes amis de la droite ou de vos amis de la France insoumise, mais il est présent. Ils sont tellement anti-américains, comme ils ont l'impression que les Américains, c'est le diable, ils sont prêts.
Oui, mais est-ce que nous ne sommes pas au cœur d'un affrontement entre finalement deux impérialismes, l'impérialisme américain et l'impérialisme russe. Ah,
attendez, mais elle est où la liberté ? Moi, attendez, moi, les Américains, c'est pas mon histoire. Mais attendez, aux États-Unis, on vote démocratiquement. Monsieur Poutine, c'est un dictateur. Il faut appeler non, les choses par leur nom.
Je suis d'accord avec vous, Jean-Luc Bourdin.
J'attends de voir vos amis dire qu'il est un dictateur.
Il y a deux impérialismes, l'impérialisme américain et l'impérialisme russe, mais je préfère l'américain. L'impérialisme russe, effectivement, c'est la dictature, c'est voilà. Il ne faut pas être dupe sur le fait que les Américains ne sont pas des enfants de cœur et qu'effectivement ils ont des visées.
Oui,
voilà.
Mais tu choisis quand même.
Attendez, il faut aussi être honnête avec nous-mêmes. C'est-à-dire que cette guerre, on aide les Ukrainiens, nous les Français un peu moins que d'autres pays d'Europe, on aide les Ukrainiens, mais surtout on n'enverrait jamais le moindre soldat en Ukraine se faire tuer. Impossible. Mais impossible. Mais
à force d'avoir dit.
Et puis la guerre ne peut pas tout justifier.
Non, mais il faut être honnête avec nous-mêmes.
Mais, et les Américains non plus.
Les Américains non plus.
Je suis d'accord. Comme depuis qu'on a nos enfants, depuis que tu nais, on t'explique que ta propre vie, tes propres envies, ça passe avant tout. Évidemment, on est dans des sociétés où tu n'as personne qui oserait dire que tu peux mourir pour plus grand que toi, que tu peux t'oublier.
Je suis pour qu'on soutienne les Ukrainiens et je suis d'accord que ça aura un coût et qu'il y a des sacrifices à faire.
Qu'il faut accepter ce coup.
Effectivement, un peuple en guerre, mais on ne peut pas tout justifier à cause de ça. La crise énergétique, les anticipations qu'il aurait fallu faire.
Mais c'est les écolos les décisions. Qui sont responsables.
Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Si on avait écouté les écolos, on aurait des énergies renouvelables suffisamment dans ce pays. Voilà, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus.
En tout cas, on est le seul pays qui n'atteint pas ses objectifs
en matière d'énergie renouvelable. Et maintenant, cet hiver, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez dit qu'il ne fallait pas que ce soit les plus humbles qui trinquent. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va nous écouter quand on va demander le doublement, le triplement du chèque énergie ? Est-ce qu'on va aider les plus précaire à faire face à cette crise.
Quand vous demandez
ça, c'est ça que je veux savoir.
Oui, monsieur, à la France Insoumise, quand on fait une ristourne de 30% sur l'essence, la France Insoumise dit ça ne nous intéresse pas.
Ah non, c'est que 30 centimes sur l'essence, c'est pas que pour les plus humbles, du coup. C'est
mais quand les mesures sont bonnes, il faut savoir les accepter.
Oui, mais on préférerait cibler sur ceux qui ont le plus besoin.
Mais quand vous faites ça, moi j'applaudis, je dis que vous avez raison. Oui, ça m'empêche pas de dire que vous avez raison.
La loi sur la protection du pouvoir d'achat, est-ce que vous l'avez voté, monsieur Taché ?
Non, je n'ai pas voté.
Attendez, je termine. Donc il faut aller expliquer dans les circonscriptions que quand on propose 30 centimes de ristourne, de pouvoir d'achat direct dans les poches, c'est refusé par celles et ceux qui sont toujours, pas vous, je pense à LFI parce que je ne supporte pas les gens qui sont capables de dire que la police tue, que les journalistes sont des abrutis et que les chefs d'entreprise sont des parasites. Je parle de M. Mélenchon et son orchestre. Et ça, il faut aller leur expliquer. Si on n'est pas capable de voter, être dans une concorde nationale sur des choses basiques qui sont du miel pour les Français, qu'est-ce que ça va être sur des sujets clivants, sur la fin de vie, la retraite, l'assurance-chômage ?
Votre loi pouvoir d'achat, dans ma circonscription, personne n'en a vu la couleur, les primes que vous avez essayé de favoriser, ça concerne 10% des gens.
Merci. Quand il y a des mesures positives, il faut les voter.
Bien, merci messieurs, arrêtons d'être sectaires. 11h48, on va terminer ce débat sur les Français et la fatigue informationnelle. Ça m'intéresse beaucoup, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h52, le temps passe vite avec nos invités, avec la politique. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Dites-nous, allez-y, 0826-300-300. Est-ce que vous auriez envie que tous les jeudis, non pas une heure, mais deux heures de débat politique comme ça ? Parce que, comme vous le disiez, à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de débat. Que le débat est difficile, dans tous les cas. Ici, je suis content. Je suis content, nous avons trois responsables politiques qui s'expriment et qui peuvent débattre. Nous journalistes, nous sommes contestés, encore plus que vous. Au moins autant que vous, les politiques. 63% des Français qui ne veulent plus s'informer. Vous rendez compte ? Fatigue informationnelle. Pourquoi, Robert Ménard ?
Parce que j'ai été journaliste pendant 35 ans.
Mais oui.
Parce que trop longtemps, on campe sur une autre planète. Moi, je vais vous raconter une anecdote, enfin, vous savez aussi bien que moi. Quand j'ai commencé, il y a très longtemps, journaliste, les gens, ils te disaient, tu vois, t'arrivais dans une rédaction, t'allais faire les chats écrasés, tu sais, les vieux l'hiver. Comme si c'était tellement plus noble de parler des grandes questions politiques que des faits divers. Or, tu t'aperçois que les faits divers, c'est ce qui est la vie des gens. Oui. On a toujours, dans cette profession, pensé que tout ça était de peu de poids. Ensuite, attends, pardon de le dire, le nombre de rédactions qui campent à côté du monde, Enfin, moi, je suis sidéré de ça. Les leçons de morale, la moraline à quatre balles. Alors, ça m'arrive.
Dans tous les sens. Ça m'arrive. Dans tous les sens.
Oui, mais ça m'arrive. Moi, je suis arrivé dans des plateaux de télévision. T'es élu, t'es maire, vous avez, on n'a pas tous les mêmes idées. Mais j'avais l'impression d'être le diable par rapport à mes propres confrères.
Ouais. Carl si Olive. Journaliste aussi.
Carte de presse 66-956. Bah, oui.
Moi, je donne pas le numéro. Moi aussi, je donne même pas la mienne.
Il vrai qu'il y a un numéro à trois chiffres autour de cette table.
Non, je disais, j'ai connu le numéro 7, moi. Geneviève Tabouille.
Ah oui. J'étais invité sur les plateaux.
Elle avait 92 ans.
Très souvent pendant la crise des Gilets jaunes. Et je disais, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a beaucoup de médecins. Que les médecins arrêtent de se prendre pour des politiques et que les politiques arrêtent de se prendre pour les médecins. Pardon Jean-Jacques Bourdin, vous laissez écouter, vous n'intervenez pas dans la sensibilité politique qui par ailleurs est la vôtre. Mais à un moment donné, ça serait bien aussi que les journalistes arrêtent de se prendre pour des politiques. Mmh. Et il y en a suffisamment puisqu'ils sont invités autour, les politiques. Ça peut peut-être expliquer. Et puis il y a d'autres choses aussi. Je regardais un chiffre là, 48% des moins de 35 ans qui vont s'informer aujourd'hui sur Internet, qui n'ont plus la télé, qui regardent moins l'information.
Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Hein.
Je suis d'accord.
Pour la qualité de l'information, honnêtement.
Mais, et parfois on dit que trop d'infos tue l'info, encore plus quand celle-ci n'est pas toujours vérifiée et qu'on est sur des canaux qui sont plutôt partisans et plutôt qu'objectifs.
Les gens ne nous croient plus.
Aurélien Taché.
Non, mais c'est très inquiétant. Hein. Ce que vous avez appelé la fatigue médiatique, c'est un symptôme de la fatigue démocratique. Hein, parce que quand on ne s'informe plus, la deuxième étape, c'est d'arrêter d'aller voter, c'est d'arrêter de voter.
C'est le risque.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelque chose de profond que je perçois ou crois percevoir dans ce pays où vraiment les gens se disent finalement, la totalité, quoi, le contrat social, le tout, j'y perds plus que j'y gagne. Alors foutez-moi la paix. Moi, je discutais avec un agent immobilier dans l'ouest de la France dans le cadre de mes vacances. Il me disait, on me demande de plus en plus d'acheter des maisons qui ne sont connectées à rien. Pas de route, pas de numérique, rien. Les gens font sécession, mais réellement, dans le pays, ne supportent plus.
Le Covid est passé par là. Hein.
Alors, il y a le Covid, il y a plein de choses, il y a tout un tas de bouleversements qu'il faut, sur lesquels nous, les politiques, on met des mots et on apporte des réponses. Mais comme ils ne nous croient plus capables de le faire et que ce qu'ils entendent finalement, souvent dans les médias, c'est un peu toujours la même chose, ils se disent, bon, on coupe et puis on va se débrouiller tout seul. Mais c'est très grave de ce que ça dit sur notre incapacité, notre impuissance, dans le cadre de nos métiers respectifs, journalistes, politiques et autres, à guider la démocratie.
Il ne faut pas s'en satisfaire parce que c'est hyper dangereux.
Je suis bien d'accord.
Dangereux.
Que les gens pensent que tous les hommes politiques sont des vendus qui font ça pour leurs indemnités ou que les journalistes sont tous des menteurs, c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème.
Je veux dire, personne ne doit s'en réjouir. Moi, le poujadisme anti-politique ou le poujadisme anti-journaliste, aucun des deux. Et je vous le dis parce que les hommes politiques et les journalistes, à tour de rôle, ils le font eux-mêmes en disant tous ces politiques, c'est de la merde.
Ils nourrissent parfois. Et il faut relire le contrat social de Jean-Jacques Rousseau de 1762.
Il faut faire attention.
Il faut partir de là parce qu'on est en train de, même ça, on est en train de le perdre.
Mais vous savez, je vous arrête. Merci, je voulais vous dire merci. Et vraiment à tous les trois parce que ça fait plaisir de vous entendre débattre. Vous n'êtes pas d'accord, mais au moins vous respectez l'autre et les idées de l'autre. Et ça, c'est l'art de la conversation. L'art de la conversation.
C'était un art français.
Oui, qui était un art français.
Donc on pourrait aller voir un match rugby à Béziers.
Et donc pour avoir un match rugby à Béziers. D'ailleurs, on va organiser un match rugby-foot entre Béziers et Nîmes. Ça, c'est une bonne idée, non?
J'ai la modeste responsabilité de l'équipe de football du Parlement. Hein.
Bon, d'accord. Bon, merci, messieurs. Merci
à vous.
Nous réorganiserons évidemment de tels débats tous les jeudis, peut-être plus longs encore, parce que c'est tellement passionnant et tellement de choses à dire. Merci à vous trois d'être venus nous voir sur Sud Radio, 11h57.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous après ce débat passionnant et passionné, ce débat où les trois interlocuteurs présents, trois responsables politiques ont su s'écouter. Et encore une fois, j'y tiens beaucoup parce que ces foires d'empoigne où on ne comprend plus rien, bien ça ne nous sert à rien. Donc oui, nous allons organiser ça de plus en plus souvent. Bah tiens, on va prendre Gilles dans un instant qui lui veut parler d'autre chose. Mais vous appelez 0826-300-300 sur tous les sujets d'actualité. Vous n'hésitez pas, hein, vous réagissez évidemment. Et tiens, lundi d'ailleurs, nous organiserons un petit débat autour de cette lassitude face à l'information. Ces Français qui ne veulent plus s'informer, une fatigue informationnelle, c'est inquiétant sur le plan démocratique évidemment. Et nous ouvrirons le débat lundi entre 11h et midi évidemment parce que je trouve ça très important. Un autre sujet. En début de semaine, vous avez entendu parler, évidemment, de la bourde de Christophe Galtier. Débat, là aussi, qui s'est installé ensuite sur les chars à voile. Oui, débat qui est, alors qu'il y a des sujets bien plus importants en France et dans le monde, c'est vrai que c'est un débat qui a pris beaucoup d'ampleur, peut-être un tout petit peu trop, mais tous les médias s'en sont emparés, nous aussi, hein, soyons honnêtes. Le groupe écologiste du Sénat va proposer une loi nommée PSG. Oui, une loi nommée PSG, afin de réguler l'utilisation des avions privés en France et de privilégier les déplacements en train. Cela donc intervient après la polémique Christophe Galtier et Kylian Mbappé sur les trajets du PSG et le fameux char à voile. Pour parler de cette proposition de loi, j'appelle Guillaume Gontard, qui est sénateur et président du groupe écologiste au Sénat. Guillaume Gontard, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Quelle est la proposition de loi que vous préparez ?
Alors c'est tout simple en fait. Hein. Vous avez parlé d'une loi PSG, c'est pas forcément, je dirais, essentiellement sur PSG. Effectivement, on rebondit sur l'actualité, puisque c'est oui. quelque chose qu'on avait proposé sous forme d'amendement dans la loi sur le pouvoir d'achat. En fait, c'est tout simple, c'est élargir à toute l'aviation privée les restrictions qui s'appliquent aux services réguliers. Et donc, c'est... l'interdiction des vols, notamment des jets, quand une solution est de moins de 30 existe.
Alors, attendez, on a des petits problèmes de téléphone. Vous dites, je répète, vous voulez voter une loi qui interdirait l'utilisation d'un jet privé quand il est possible de prendre le train, c'est ça ?
C'est exactement ça. Enfin, quand il y a une solution de moins de 2h30. Je rappelle que cette...
Non.
Cette...
Alors, attendez. Vous savez ce qu'on va faire, Guillaume Gontard ? On va vous rappeler. Parce que les téléphones comme ça, qui ne sont pas de bonne qualité, je me mets toujours à la place de celui ou celle qui est dans sa voiture, ou qui est chez lui, ou qui est dans son atelier, ou ailleurs, et qui n'a pas la possibilité de pouvoir écouter alors qu'il a envie d'écouter. Et je suis persuadé que les auditrices et les auditeurs ont envie de vous écouter. Guillaume Gontard, ne vous inquiétez pas. On va vous rappeler. On va prendre Gilles aussi. Je vais en profiter pour faire la pub. Tiens, comme ça, nous aurons le champ libre après cette page de pub. Et d'ailleurs, Gilles de Montpellier nous appelle. Il a aussi des choses à dire sur la question. À tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, nous avons retrouvé Guillaume Gontard, sénateur, président du groupe écologiste au Sénat. Guillaume Gontard, vous êtes donc là.
Je suis là, j'espère que ça fonctionne mieux.
Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, merci. Je précise, vous avez déposé une proposition de loi, et non pas projet de loi, c'est le gouvernement, proposition de loi, c'est le parlementaire. Proposition de loi qui nous dit quoi ? Qui nous dit que vous êtes prêt à interdire, qui propose l'interdiction de l'utilisation des jets privés s'il y a possibilité de prendre le train à moins de combien ? 2h30 ?
C'est moins de 2h30 et sans correspondance. En fait, c'est tout simplement d'étendre le dispositif qui a été voté dans la loi climat, et résilience, et ça a été voté à l'Assemblée, ça fait partie maintenant de la loi pour l'aviation classique. Et donc, c'est juste de l'étendre au jet privé parce que ça nous paraît une solution à la fois de bon sens et pragmatique, comme on sait faire au Sénat, et de dire que quand on a une solution décarbonée ou en tout cas avec beaucoup moins de carbone, puisque un voyage en TGV c'est 50 fois moins d'émissions que ce que ça peut être en jet, et ben qu'on préfère cette solution là.
Voilà. Évidemment, ce n'est pas partagé par tous. Tiens, nous allons voir les réactions. D'abord Alain qui est à Lyon. Bonjour Alain. Gilles d'abord. Alors Gilles à Montpellier. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes favorable à cette idée ou pas?
Dans le principe, ça pourrait être bien, mais est-ce que ça a été bien réfléchi ? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y aura assez de trains ? C'est comme les voitures électriques. Est-ce qu'il va y avoir assez de bornes ? Est-ce qu'on va avoir assez de centrales pour faire tourner les chauffages, les clims et les voitures avec ? C'est toujours le problème. On veut un pays industrialisé et puis actif et puis qui rapporte de l'argent. Ça, c'est logique parce qu'on veut faire tourner la machine. Mais à un moment donné, est-ce que ça a été bien réfléchi ? Je suis désolé, la loi a été votée, mais est-ce qu'il va y avoir assez de trains ?
Guillaume Gontard, Guillaume Gontard.
Alors, c'est une vraie question. C'est sûr que, associé à ça, si on veut changer nos habitudes, si on veut aller vers des transports décarbonés, c'est évidemment qu'il va falloir fortement investir, et que ce soit mon groupe, mais d'autres, ont largement fait des propositions pour qu'on développe effectivement le ferroviaire dans toute sa pratique.
Oui.
Mais si je prends l'exemple là du Paris Saint-Germain, oui. Je vois que le directeur de la communication de la SNCF, hein, c'est même un peu parti de lui, qui a dit
que lui
était prêt, que c'était possible, en tout cas que la SNCF pouvait accueillir.
Et moi, je trouve que j'ai une autre question. France,
oui, mais Guillaume Gontard, je mets juste une réserve concernant le Paris Saint-Germain. Il y a plusieurs réserves. Hein. La première, c'est que les matchs ont lieu le soir, donc il faut un TGV pour revenir. Exactement. Ça, on l'a pas. La deuxième, c'est que, j'imagine les stars du Paris Saint-Germain dans une gare, il faut trouver des solutions pour les isoler. Et puis, moi, j'ai une autre solution, peut-être, c'est jouer les matchs l'après-midi, ils pourront prendre le train. Mais les télévisions ne voudront pas.
Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'en fait, on est quoi ? On est dans une période très, très complexe où on voit que, voilà, maintenant le président utilise le mot sobriété, il va falloir qu'on fasse attention à nos dépenses énergétiques, et donc il va falloir changer nos habitudes. Et c'est sûr que c'est des changements, et qu'il va falloir donc s'adapter. Et je trouve intéressant à travers, c'est le PSG qui est ciblé, mais moi je cible personne en particulier, et je comprends même qu'on puisse avoir un fou rire dans une interview, ouais. C'est pas la question. Je dis juste que, ces personnalités du football ont une influence très forte. Patricia Masson-Delmotte hein, du GIEC le disait, on a besoin de messagers pour ce changement. Et je trouverais intéressant, et d'ailleurs j'en appelle au président du PSG, mais à d'autres clubs, de faire le pari, de prendre la main.
Mais ils sont en négociation.
De communication de la SNCF, et oui. De dire, tentons la chose, essayons sur un match de prendre le TGV. Je pense que ça sera non seulement un bon coup de projecteur, et pour montrer aussi à l'ensemble des Français, à qui on demande beaucoup, qu'on est tous en capacité d'essayer de changer, d'essayer de modifier nos comportements.
En tout cas, je peux vous dire que moi, qui suis quand même l'un des responsables d'un club de football professionnel, Nîmes Olympique en l'occurrence, nous essayons, dès que nous le pouvons, de prendre le train. Voilà, pour nous déplacer. Je voulais vous le dire. Gilles, vous voulez ajouter quelque chose, mon cher Gilles ?
C'est comme cette histoire de sobriété. Il faudrait-il pouvoir et bon vouloir pour ceux qui ont les sous, mais le grand nombre des Français ne peut pas, ils sont déjà en sobriété. On ne peut pas réduire plus, c'est pas possible. Faut faire attention à nos factures et nos fins de mois, quoi.
Le président
de la France n'est pas faite que de riches.
Par même temps, Gilles, terminé.
Oui. La France n'est pas faite que de riches, quoi. Ouais. Les riches peuvent faire de la sobriété, mais ceux qui sont moyens.
Oui. Vous avez tout à fait raison. Le président de la République parlait que c'était la fin de l'opulence. Je ne sais pas l'opulence pour qui. Effectivement, il va falloir qu'on réduise. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement aujourd'hui ? Le Français moyen, comme vous dites, qui a sa voiture diesel depuis 20 ans, lui, l'essence qu'il met est taxé très fortement. On le sait, on le voit bien. Monsieur Bolloré ou d'autres milliardaires qui utilisent leur jet pour parcourir la France utilisent un carburant qui est détaxé. Donc effectivement, on a besoin à la fois de justice fiscale. Sur la question de la taxation, par exemple, du kérosène, c'est sûr que c'est quelque chose de plus compliqué puisque c'est à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. Mais c'est aussi des choses sur lesquelles on doit se poser des questions, effectivement, parce que sans justice sociale et sans justice fiscale, on n'y arrivera pas.
Bien, merci Gilles. Alain, donc, qui est à Lyon. Alain, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alain. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, Alain.
Oui, bien pas de quoi.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Alain ?
Je voulais simplement dire, Mbappé, c'est quelqu'un qui a une audience très importante auprès de la jeunesse et qui a une grande influence.
Oui.
Aujourd'hui, il est déjà compliqué de faire prendre conscience aux adolescents de la problématique environnementale pour certains d'entre eux.
Oui.
C'est son action en rigolant d'une plaisanterie a fait que ces gamins vont croire que ce sujet est risible.
Ça fait mal, c'est certain.
Voilà. Et du coup, ça a fait reculer la prise de conscience de ces jeunes alors que c'est leur avenir. Et ça, c'est vraiment très grave. Il faut que ces personnes prennent conscience qu'il a l'influence qu'il a sur les jeunes. Et il est tenu maintenant à être beaucoup plus mature.
Alain, oui, j'allais prononcer le mot, il a fait preuve d'une certaine immaturité. C'est ce qu'on
totalement.
Peut dire, hein, Alain.
Totalement.
Voilà, il est jeune encore. Hein.
Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'il revendique d'être un leader et d'être très intelligent et compagnie. S'il est très intelligent, il doit avoir la maturité qui va avec. Quoi.
Guillaume Gontard.
Mais moi, je c'est ce que je disais, je partage le fait que ça reste un leader, ça reste quelqu'un de regardé, qui a une influence
très forte. Donc effectivement que ce fou rire était malheureux, mais à la rigueur, je dis qu'il faut qu'on rebondisse là-dessus. Ça a créé effectivement une indignation, on va dire, assez générale. Je pense que Mbappé doit rebondir là-dessus et essayer de prendre conscience justement de l'importance qu'il peut avoir à la fois dans ses gestes, dans ses paroles. Et moi, je pense, c'est pour ça que je propose encore une fois, je pense que si le PSG, mais ça peut être d'autres, mais en tout cas, nous démontrer justement qu'on peut changer les pratiques en matière de déplacement, mais de manière plus générale sur dans le milieu du sport. Et il y a déjà des choses, vous l'avez rappelé, qui sont faites, mais aussi sur les déplacements. Je pense que ça serait quelque chose de fort et puis qui pourrait rattraper cette petite erreur de communication.
Bien, merci Alain. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Alain ?
Oui, je voulais ajouter quelque chose. Il y a actuellement des gens très fortunés qui investissent des sommes très importantes pour la lutte contre l'environnement. Avec des joueurs qui gagnent de telles sommes d'argent, qui eux ont une attitude qui paraît moqueuse, ils détruisent une partie de ce travail. Quand on voit que Alain Mérieux, collaborateur milieu multimilliardaire, a créé l'entreprise des possibles pour de l'écologie sociale, il est prêt à investir 10% de sa fortune, c'est-à-dire même entre 750 et 800 millions d'euros, il a drainé des plusieurs milliardaires, des tas de personnes fortunées. Tout ça, c'est mis à mal. Et ça, c'est plus acceptable. Il y a plein de gens inconnus qui mettent actuellement des sommes très importantes. Et ces joueurs de foot ne mettent rien du tout. Et en plus, se moquent. Là, par contre, il y a une vraie erreur. Il y a vraiment une erreur. Quant au déplacement, il n'est pas compliqué aux joueurs le soir de passer une nuit à l'hôtel.
Oui. Merci Alain. Merci, c'est vrai, on peut passer une nuit à l'hôtel, mais quand les matchs sont rapprochés, il est bon aussi de revenir pour ne pas perdre de temps de récupération, enfin, etc., etc. Je ne vais pas ouvrir non plus ce débat-là. Merci d'être avec nous. Guillaume Gontard, vous la déposez quand, cette proposition de loi ?
On va la déposer certainement soit d'ici la fin de la semaine ou début de semaine. De toute façon, elle est prête, parce que je vous dis, c'est en plus pas quelque chose, c'était pas une opportunité, oui, puisque ça fait partie aussi des 10 mesures qu'on avait proposées avant l'été en matière de sobriété, sur des choses sur lesquelles on pourrait aller très vite. Et donc c'est pour montrer aussi que par des choses effectivement à la fois simples, mais qui demandent des aménagements, qui demandent une réflexion, mais si on n'a pas un vrai cap politique, si on ne donne pas des orientations, on ne changera jamais.
Alors autre exemple de sobriété, Guillaume Gontard.
On a la question de la vitesse sur les autoroutes qui en faisait partie.
110 km/h. Vous demandez 110 km/h sur les autoroutes.
Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse. Vous savez, les écologistes, on s'appuie toujours sur des faits scientifiques. Le rapport du GIEC depuis 1990 nous dresse à la fois un constat, à la fois bien sûr terrible, mais nous donne aussi des orientations. Cette question des 110 km/h, si l'on regarde, c'est un impact très fort. Je suis le premier, hein. Je prends l'autoroute, j'ai une voiture, c'est compliqué, je roule à 130, c'est compliqué. Mais quand je vois, dans l'intérêt de mes enfants, mais dans mon intérêt personnel aussi, j'habite dans un territoire de montagne, je vois les glaciers fondre, je vois ce qui se passe, je vois les catastrophes que ça a, je vois le manque d'eau. J'étais tout à l'heure sur l'inauguration d'une station d'épuration, on n'a parlé que de ça, que du manque d'eau. Et ben, il va falloir agir. Et je pense qu'il faut qu'on regarde de manière très pragmatique là où est-ce qu'on peut avoir un moyen d'action. Et effectivement, ça change nos habitudes, encore une fois. Et je dirais que c'est aussi le rôle du politique de donner ce cap-là, de donner ces orientations-là et d'avoir aussi ce courage politique.
Merci Guillaume Gontard, merci. Nous y reviendrons. Les 110 km sur autoroute, c'est en train de monter. C'est un sujet que nous aborderons, évidemment.
Bien. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il n'y a pas une solution. Il y en a plusieurs, mais qu'il faut avoir le courage de les mettre sur la table.
Merci Guillaume Gontard, 12h26. Vous êtes sur Sud Radio, merci de nous avoir accompagnés depuis 2 heures. C'était passionnant, vraiment passionnant. Ce sera, on l'espère, comme cela tous les matins, 0826 300 300. Vous appelez, vous intervenez, vous êtes là chez vous. Il est 12h26, André Bercoff dans un instant.